chacun de mes enfants. Le Seigneur étend sa main en guérison au milieu de nous. Alléluia. Il guérit quelqu'un qui a un problème de glande thyroïde. Alléluia. Reçois la guérison de ta glande thyroïde qui ne fonctionne pas bien comme elle devrait. Alléluia. Reçois l'attouchement du Seigneur. Il est le créateur de ta glande thyroïde. Et il va te toucher et te guérir. Alléluia. Reçois cette guérison complète. Alléluia. Merci Seigneur de la part du Seigneur. Parce que sa fidélité est grande. Quelqu'un est touché dans le genou droit. Tu as de l'arthrose dans le genou droit. Et maintenant tu reçois la puissance de Dieu sur toi. Et sur toi, sois guéri dans cette arthrose dans le genou droit. Au nom de Jésus, reçois. Sois délivré de ta douleur. Dans le bas de ton dos pour juste t'enlever ce problème qui à chaque fois que tu fais un effort spécial te coince dans le bas du dos. Alléluia, mais le Seigneur va mettre sa main et t'enlever cette infirmité et cette douleur. Merci Seigneur, toi qui as créé la colonne vertébrale ici, qui sait de quoi elle est faite, c'est toi qui l'as créée. Alléluia Seigneur, merci. Il n'y a pas de chose impossible pour toi. Seigneur, loué sois-tu, Seigneur. Alléluia. Quelqu'un qui a un problème de sinusite, dans un problème dans le nez. Alléluia, Seigneur, et qui monte jusqu'à la tête, sinusite. Désormais, tes sinus se débouchent. Parce que Jésus met juste le doigt sur tes sinus. De la part du Seigneur suffit. Et tu es guéri. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Et il y a une personne qui a son système nerveux comme très fatigué, usé, surmenage. Et parfois, tu tombes même jusque dans la dépression. Mais la rosée divine, viens renouveler, rafraîchir ton système neurologique. Alléluia, merci, merci Seigneur. Alléluia, loué, loué, loué sois-tu. Alléluia, merci Seigneur. Sois renouvelé, reçois le renouvellement dans tout ton système afin que tu puisses continuer de travailler. Alléluia. Quelque part qui doit disparaître, que le Seigneur va faire disparaître. Parce que sinon ton cas pourrait s'aggraver aussi. Alléluia, mets la main du Seigneur et tout sur toi. Il t'a donné rendez-vous ici pour te toucher. Et tu pourras chanter Jésus m'a touché. Désormais tu vas voir une différence après cet attouchement-là de Jésus. Alors dis merci Seigneur. L'anxiété perturbe chacune de tes nuits et tes journées deviennent de plus en plus pénibles. Le Seigneur le sait. Elle te dit, ma rosée vient apaiser les souffrances de ton âme. Alléluia, Seigneur. Et cette anxiété va s'enfuir comme un nuage pour ne plus revenir. Et tu vas passer des nuits paisibles maintenant. L'anxiété ayant disparu. Alléluia, va donner pour quelqu'un qui est concerné ici. Quelque chose qui s'est passé au mois de mai en France à notre convention de Valence, qui était assez particulier et spécial. Le Seigneur a donné cette parole de connaissance à un homme qui souffrait particulièrement depuis 3 ans au creux de l'estomac. C'est un serviteur de Dieu et qui vient régulièrement aussi dans nos cultes à la maison à cause d'une opération qu'il a eue en l'an 2000 destinée à faire disparaître une éventration particulière. On lui avait posé une plaque dans le ventre pour éliminer cette éventration. Et on lui a dit, vous devez vivre avec cette plaque le restant de vos jours. Donc on ne peut pas l'enlever, sinon c'est l'éventration. Alors cet homme-là était comme condamné à vivre avec cette douleur parce que ça devenait insupportable. Il ne savait pas comment calmer cette douleur, c'était impossible, ça devenait difficile à vivre. Et puis, à la convention de Valence, le Seigneur dit ceci. Il dit, je vais mettre ma main. Le Seigneur a dit, je vais mettre ma main entre la plaque qui est dans son ventre et son propre corps. Et ça a pu lui faire mal. Vous vous rendez compte? Ce que le Seigneur peut faire. Même avec quand les hommes sont intervenus, il n'y a pas de problème. Si c'est pas fini, s'il faut faire autre chose, le Seigneur, il peut faire tout.
Amen.
Il a effectivement, à partir de ce moment-là, toute douleur a disparu. Alors que ça fait 3 ans qu'il souffrait vraiment des souffrances terribles. Et le Seigneur est venu mettre sa main entre la plaque et son propre corps. Alléluia, Seigneur. Alléluia, car l'humilité est grande, Seigneur.
Nous allons voir, pour terminer notre séminaire, encore quelques pensées importantes. Dans ces temps de la fin, vous le remarquez comme moi, la foi devient de plus en plus superficielle, n'est-ce pas vrai? Et on a besoin de retourner aux sources, au fondement de la vie chrétienne. Et de plus en plus, la foi des chrétiens devient superficielle. On attend tout du Seigneur d'une manière instantanée, rapide. Si le Seigneur doit faire quelque chose, c'est toujours rapidement, tout de suite. S'il n'agit pas tout de suite, on se décourage. Alors que les épreuves sont là pour nous former, nous transformer. Et c'est dans l'épreuve que tu dois faire tes preuves. Le Seigneur n'a jamais utilisé quelqu'un qui n'a pas fait ses preuves. Paul disait à Timothée, il ne faut pas que ce soit un jeune converti, un novice, pour servir le Seigneur. Sinon, il tombe dans les pièges du diable, qui est l'orgueil. On peut avoir beaucoup de dons, mais si l'orgueil est dans notre vie, tôt ou tard, cet orgueil nous fera tomber, n'est-ce pas vrai? Et beaucoup, simplement à cause de cet orgueil, ils ont été arrêtés sur la route et ont mal fini. On peut bien commencer et mal finir. Et comment faire pour qu'il n'en soit pas ainsi? J'ai préparé pour vous quelques signes. Les signes d'une foi superficielle. Nous allons voir la foi superficielle et en même temps nous verrons pourquoi elle est superficielle, en sorte que Nous allons voir comment avoir une foi profonde. Et dans les évangiles, la parole de Dieu, il y a plusieurs passages où l'on voit un peu une manifestation de cette foi superficielle. Le premier signe, je donnerai comme un petit sous-titre, pas d'affection profonde. Pas d'affection profonde pour le Seigneur. Et à qui est-ce que vous pensez lorsque je vous dis cela? C'était un serviteur de Dieu et il se nommait Pierre. Vous dites, comment ça se fait? Il n'avait pas une affection profonde pour son maître. Vous savez qu'à un moment donné, il est passé par une crise très profonde, n'est-ce pas vrai? À la fin de l'évangile de Jean, chapitre 21, les versets 15 à 17, on va juste peut-être les lire en passant. Jean 21, 15 à 17. Lui qui avait dit qu'il ne redirait jamais le Seigneur, n'est-ce pas vrai? Lui qui s'était vanté devant les autres, en disant, si tout le monde t'abandonne, moi je ne t'abandonnerai pas. Et cependant, il a renié son maître, n'est-ce pas vrai? Alors, brièvement, nous allons voir pourquoi il a renié son maître. Parce que le Seigneur ne pouvait pas monter au ciel sans avoir enseigné son apôtre, et corriger cette faille qui l'a conduit au reniement. Pourquoi en arriver à ce point-là, c'est l'apôtre? Et nous allons le voir brièvement. Verset 15, « Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paix mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paix mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ? » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu ? » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paix mes brebis. » en vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. » Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. En ayant ainsi parlé, il lui dit, « Suis-moi. » Brièvement, nous voyons que Pierre a appris la leçon, mais la faille dans la vie de Pierre se trouve dans le verbe aimer. Quand Jésus lui dit, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Dans le texte grec, le verbe est agapao, agapé, ça vient du nom agapé qu'on connaît, n'est-ce pas, qui veut dire amour. Et là, comme c'est le verbe, c'est agapao. Autrement dit, as-tu de l'agapao pour moi? Est-ce que tu m'aimes? Donc, il parle de l'amour divin. L'agapé, c'est cet amour divin. Et Pierre, qu'est-ce qu'il lui dit? Tu sais que toute chose, tu sais que je t'aime. Mais Pierre n'emploie pas le même verbe que Jésus. Et le verbe qu'il emploie, c'est philéo. Jésus, tu sais que j'ai une affection pour toi. Philéo, ça vient de philosophie, philanthropie, philharmonie, n'est-ce pas vrai? Tu sais que j'ai de l'affection pour toi. J'ai du philéo pour toi. Alors, Jésus reprend encore, paie mes brebis, paie mes agneaux. Et il lui dit deuxième fois, Pierre, est-ce que tu as cet amour divin pour moi, Gapéo ? Et Pierre, de nouveau, il reste au sol encore, terre à terre. Il lui dit, tu sais que j'ai de l'affection pour toi. Et l'affection, c'est philéo, c'est une affection humaine. Tandis que Jésus voulait l'amener à cette affection divine, à cet amour divin. Et la troisième fois, cette fois, Jésus lui dit, Simon, fils de Jonas, tu n'as que de l'affection pour moi. Jésus reprend cette fois le verbe de Pierre. Il lui dit, Pierre, tu n'as que de l'amour philéo pour moi, que de l'affection humaine pour moi. Et Pierre lui dit, tu sais toute chose, j'ai de l'affection pour toi, j'ai du philéo pour toi. Et voilà la raison pour laquelle Pierre a renié son maître. Il n'avait pas cette affection divine que Jésus attendait de lui, cet amour divin. Et quelle est la différence entre l'amour divin et l'amour humain ? Brièvement, on pourrait faire tout un message là-dessus, mais juste deux verbes vont nous permettre de voir la différence qu'il y a entre l'amour divin agapé et l'amour humain philéo. L'amour humain philéo conjugue toujours avec le même verbe. Ce verbe-là, c'est recevoir. L'amour humain, l'amour philéo, vit toujours pour recevoir. Et c'est ce que Pierre avait fait. Pendant 3 ans et demi, il n'a vécu que pour recevoir. Et Jésus lui dit, c'est comme s'il lui disait, tu n'as vécu que pour recevoir, et voilà pourquoi tu m'as renié. Maintenant, si tu veux aller loin avec moi, si tu veux avoir une affection plus profonde, voyez, on parle d'une foi superficielle. Et maintenant, le Seigneur veut que son serviteur ait une foi profonde, une affection profonde. Et cette affection profonde s'exprime par cet amour agapé, amour divin. Et comment est-ce qu'il se conjugue avec le verbe donner? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. L'amour divin se conjugue toujours en donnant et en se donnant.
Amen.
Tandis que l'amour humain vit toujours pour recevoir. Autrement dit, c'est un amour égoïste qui résonne en somme un peu comme cela. Je t'aime si tu m'aimes. Vous voyez le raisonnement? Je t'aime. Mais si tu ne m'aimes pas, il n'est pas question que je t'aime. Je suis gentil avec toi si tu es gentil avec moi. Mais si tu n'es pas gentil avec moi, je ne serai pas gentil avec toi. Voyez-vous, cet amour est conditionnel. Mais toujours revenant sur soi. Je t'aime si tu m'aimes. Si tu me laisses tomber, je te laisse tomber. Si tu me dis du mal, je te dis du mal. Et en plus on dit, c'est juste. C'est juste comme ça. C'est juste humainement, mais pas juste divinement. Et vous savez, Pierre, finalement, n'a pas suivi Jésus pendant 3 ans et demi. C'est Jésus qui a suivi Pierre pendant 3 ans. Parce qu'à la fin, qu'est-ce qu'il est dit? Il lui dit, en ayant ainsi parlé, il lui dit, suis-moi. Parce que jusqu'à présent, c'est Jésus qui a suivi Pierre. Pierre faisait ce qu'il voulait. Mais maintenant, il lui dit, c'est terminé, il faut que tu arrêtes tout cela. Maintenant, tu dois te mettre derrière moi et me suivre. Et non plus aimer de cet amour humain conditionnel. Si on t'aime, tu aimes. Si on ne t'aime pas, tu n'aimes plus. Ce n'est pas cela. Je veux maintenant que tu conjugues avec le verbe donner. Autrement dit, même si tu ne reçois rien du tout, tu dois continuer d'aimer. Rien ne doit t'arrêter. Et c'est là que Pierre devait apprendre une profonde leçon. Et on l'a vu qu'après, il allait glorifier le Seigneur. La tradition dit que Pierre a été crucifié la tête en bas. Parce que Jésus dit que la parole de Dieu dit qu'il allait glorifier Dieu dans sa mort. Et effectivement, il n'a plus été le même. Il s'est passé quelque chose. Un amour plus profond. Un amour divin. Et combien de personnes, de chrétiens, finiront par renier le Seigneur parce qu'ils ne font que leur volonté. Ils ne servent pas le Seigneur. Ils se servent du Seigneur pour que le Seigneur les bénisse. Mais ils ne le servent pas lui-même pour lui-même. Ils se servent de lui. Et il y en a beaucoup comme cela. On peut être chrétien et même prédicateur. Dire que nous aimons le Seigneur, finalement, nous ne l'aimons que égoïstement. Nous ne l'aimons que s'il nous aime, que s'il nous fait du bien. Mais le jour où il nous laisse tomber, le jour où il ne répond plus à nos prières, il n'y a plus personne. Vous comprenez, monsieur, je n'ai pas été béni, moi, aujourd'hui. Alors, à partir de maintenant, au revoir. Vous ne me verrez plus, c'est terminé. La question est réglée définitivement. Vous avez compris? Définitivement. J'ai cru que j'allais être béni. Ah, j'allais. Que le moi allait être béni. Le moi est terriblement fort, égocentrique. Et beaucoup de chrétiens et même de prédicateurs vivent encore avec cet amour-là. On aime le Seigneur égoïstement, par intérêt. On ne le suit pas par amour, mais par intérêt. Tant qu'il nous bénit, on est les premiers à chanter Alléluia. Mais dès qu'il n'y a plus de bénédiction, dès que le ciel se ferme, dès que l'épreuve arrive, dès que la tribulation arrive, dès que la persécution arrive à cause de la parole, comme nous dit la parabole, la plante sèche, faute de racines, et il n'y a plus rien du tout. Et ainsi, beaucoup de chrétiens commencent bien, mais finissent mal. Et sont comme sur la touche actuellement, uniquement parce qu'ils aiment le Seigneur d'un amour filéo, d'un amour humain. Ils l'aiment à condition qu'il les bénisse, qu'il réponde à leurs prières. Mais le jour où il n'y a plus cela, c'est terminé. On est poli avec le Seigneur. Seigneur, maintenant tu me laisses tranquille. C'est fini. Je t'ai prié, tu ne m'as pas répondu. Bon, ça va, on n'en parle plus. Mais tu ne verras plus, c'est fini. Et il y a des multitudes de chrétiens dont l'affection n'est pas profonde. C'est un amour intéressé. Tant qu'on est béni, on suit le Seigneur. Mais lorsque l'ombre de la croix commence à planer sur le chemin, il n'y a bientôt plus personne. Plus personne. Quand il faut suivre le Maître tout seul, rejeté et persécuté à cause de la parole, il n'y a plus personne. Voilà le premier signe d'une foi superficielle, pas d'affection profonde, uniquement à cause de cet amour humain qui est égoïste, qui est toujours là en train de quémander, toujours. On est toujours en train de demander. On vient à l'église, c'est pour être béni. On va voir quelqu'un, c'est pour être béni. Tout est centré sur soi-même. Vous n'irez pas loin si vous avez cette mentalité-là. Vous n'irez pas loin. Savez-vous ce qui se passe? Une personne égoïste comme ça, vous ne la satisferez jamais. Vous ne pouvez jamais satisfaire une personne égoïste. Elle en voudra toujours plus. Et toujours plus. Et toujours plus.
C'est vrai.
Ce n'est pas en vivant pour soi, en attirant tout sur soi, que vous expérimenterez cette plénitude d'amour. C'est en s'oubliant soi-même et en donnant gratuitement autour de soi, de son amour, sans rien attendre, simplement parce que vous aimez. Amen. Ça, c'est un amour profond que très peu de chrétiens manifestent et qu'il est temps de manifester dans ces temps de la fin. Vous devez enterrer cet amour humain, égoïste, philéo, qui aime quand on l'aime. Mais dès qu'il n'est plus aimé, vous êtes rejeté catégoriquement. L'amour divin n'agit pas comme cela, n'est-ce pas vrai? Pierre a appris la leçon et Jésus lui a dit maintenant, suis-moi. À partir de ce moment-là, ce n'est pas lui qui a conduit sa vie, c'est le Seigneur qui était devant lui.
Amen.
Et partout où le Seigneur allait, son disciple, son apôtre le suivait, n'est-ce pas vrai? Pouvez-vous dire maintenant, Seigneur, jusqu'à présent j'ai marché devant toi, j'ai fait ce que j'ai voulu. Tu m'as poursuivi dans ton amour. Mais maintenant le Seigneur vous dit, ça suffit. Maintenant c'est le Seigneur qui doit être devant vous. Et vous devez le dire maintenant, tu prends les rênes de ma vie, Seigneur. Et conduis-moi. Où est-ce qu'il va vous conduire? Dans des œuvres qu'il a préparées d'avance.
Amen.
Dans un plan, un programme merveilleux qu'il a pour vous. Il a un plan précis pour chacun d'entre nous. Si nous voulons simplement le suivre, vous serez étonnés de voir ce que le Seigneur a préparé pour vous. Mais il faut être déterminé à aller jusqu'au bout. Ce n'est pas le tout de commencer sur ce chemin. Il faut aller jusqu'au bout. Un jour, dans ma vie chrétienne, tout à fait au début de ma vie chrétienne, dans l'église où j'allais, je voyais que des chrétiens un peu égoïstes qui ne vivaient pour eux-mêmes. Et j'ai vu qu'ils étaient malheureux. Et je me suis dit, Sam, si tu veux vivre une vraie vie chrétienne, il ne faut pas que tu prennes exemple. Moi, je ne veux pas vivre comme ça. J'ai dû prendre une décision. À partir de maintenant, je ne veux plus vivre pour recevoir quoi que ce soit. Si je reçois quelque chose, c'est toujours un bonus. C'est un bonus. C'est pas quelque chose que j'attends. C'est un cadeau en plus. Alors on dit merci pour les cadeaux. Mais j'attends rien. Plus rien de personne. Et je me suis dit maintenant, je veux vivre pour donner et me donner. Simplement. Simplement. Apporter ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Que l'on reçoive, qu'on ne le reçoive pas, peu m'importe. Moi, c'est mon rôle, c'est ton rôle d'apporter. Alléluia. Et de ne plus rien attendre. Quelle libération quand on a cette mentalité-là. C'est là un amour profond. As-tu cet amour divin qui n'attend plus rien des autres? Qui n'est plus esclave d'un merci d'une visite de l'autre, d'un téléphone de l'autre. Et on attend, on attend. On attend. Et on s'est dit, il n'est pas gentil celui-là. Elle n'est pas gentille, on va laisser tomber. Ah, on t'a laissé tomber, toi. Oh, tu es important, toi. Et toi, tu ne penses pas aux autres, toi? Ils ont toujours la révélation de ce que les autres doivent faire pour eux. Ah, ils ont des prophéties aussi. Merveilleuses. Ah oui, le Seigneur m'a montré que tu devais faire ça et ça pour moi. Ah, pour toi. Ah oui, et il m'a montré les détails même. Il ne t'a pas montré ce que tu devais faire toi pour les autres. Ça ne rentre pas. Ils n'ont pas de révélation, là. Il y a comme un mur. Ah, pour les autres. Comprends pas. Un langage inconnu. Inconnu. Et on finit par le reniement. Et un jour, Dieu permettra cette attitude devant ce mur. Pour que vous changiez de comportement, si vous voulez aller jusqu'au bout avec le Seigneur. Dites-moi, mes amis, combien de chrétiens ont bien commencé, même des prédicateurs, combien sont sur la touche maintenant, n'est-ce pas vrai? S'il y avait cet amour agapé, il n'y aurait plus rien de tout cela. Si on n'attendait plus rien des autres, qu'on vive uniquement pour chercher la gloire de Dieu et faire ce que Dieu nous demande, un peu c'est tout, sans rien attendre. Que de déception, que de désappointement. Pourquoi es-tu désappointé? N'est-ce pas parce que tu as cet amour filéo encore? Tu attends des autres. Mets en terre cet amour filéo et commence à vivre de cet amour divin qui n'attend plus rien. Quelle libération! Et Jésus a dit, donnez et il vous sera donné. Plus tu donnes, plus le Seigneur te donnera. C'est merveilleux. Mais vous êtes dit, en donnant, je ne vais pas m'appauvrir. Non, tu t'enrichis. Et je parle là surtout d'une manière spirituelle. Mm-hmm. Il y en a qui ont appuyé là-dessus sur l'argent. Donnez un peu des sous et vous verrez, Dieu va vous envoyer aussi des sous. Mm-hmm. Il y a eu dans ce domaine beaucoup de dérèglements, de manipulations. Et on vous promet monts et merveilles. Et on vous fait croire que c'est avec l'argent que vous pouvez gagner les bénédictions. Mm-hmm. Que vous pouvez acheter les bénédictions. Donnez, vous verrez. Si t'en donnes un peu plus, tu sais, on te bénira un peu plus. Écoutez-moi bien, juste une petite parenthèse. Ceux qui vous disent toujours de donner beaucoup d'argent et vous serez bénis, si eux seulement mettaient en pratique ce qu'ils disent, ces prédicateurs, s'ils mettaient en pratique, ils ne demanderaient jamais rien. Ils ne demanderaient jamais rien. Au lieu de demander, de vous demander, ce serait eux qui vous donneraient. Puisqu'en retour, ils reçoivent. Mais eux, ils ne font jamais rien. C'est toujours vous qui devez donner.
Ils ne donnent pas l'exemple.
Ils ne donnent pas l'exemple. Et ça veut dire que c'est un moyen qui ne marche pas, ça ne fonctionne pas.
Ben, c'est ça.
Ça ne fonctionne pas.
C'est ça l'histoire.
C'est plutôt donc cet état d'esprit, n'est-ce pas vrai? Mm-hmm. Bien sûr, dans le donner, l'argent peut être inclus. Mais il y a beaucoup plus que ça.
C'est ça. C'est ça.
C'est toute la vie spirituelle. C'est la vie du ciel. Un jour, quand nous serons là-haut, nous verrons que... Ah. Personne ne vit pour soi là-haut.
C'est ça.
Il n'y en a pas un qui est dans le coin du ciel en train d'attendre d'être béni. Et qui dit, qu'est-ce qui se passe ici? Personne ne vient à ma rencontre ici, c'est quoi ici? Tout le monde m'a abandonné, ça ne va pas. L'amour filéo est abandonné. Là-haut, tout le monde s'oublie et ne pense qu'à l'autre. C'est leur bonheur.
C'est
leur joie. C'est la félicité, c'est le ciel même. Alléluia.
Amen, amen.
C'est cela le ciel.
Amen, amen. Amen.
Les signes d'une foi superficielle, un amour humain égoïste qui attend toujours des autres. Si tu attends toujours quelque chose des autres, tu es esclave des autres.
C'est ça.
Tu es esclave. Non, on va pas faire ça moi. On va pas faire ça, j'attends toujours. Bah, tu peux attendre longtemps. Et c'est bien que les autres ne fassent rien du tout, jusqu'à ce que tu apprennes que tu dois changer ton fusil d'épaule.
Uh-huh.
Et que tu prennes cet amour divin, les armes divines de Jésus. Amen.
Amen.
Gloire au Seigneur. Bon, il faut que je vous donne Norman, un deuxième ou troisième signe quand même. Un deuxième signe de foi superficielle. Pas de profondeur dans le ministère. Pas de profondeur. Et où est-ce que nous allons trouver cela? C'est dans 2 Timothée 4:10 avec l'exemple de Démas. Qu'est-ce qu'il est dit avec Démas? Démas m'a abandonné. Pourquoi? Par amour pour
le siècle présent.
2 Timothée 4:10. Voyez-vous, Démas m'a abandonné. Donc, vous êtes d'accord avec moi, c'était une foi superficielle, ça. C'est une foi superficielle, il m'a abandonné. Par amour pour le siècle présent. Et juste avant les versets 9 et 10, Paul parle d'un autre amour qui peut complètement corriger cet amour du monde que l'on peut avoir. Le verset 8, qu'est-ce qu'il dit? Au verset 6 déjà. Car pour moi, je sers déjà de libation. Et le moment de mon départ approche. Donc c'est l'ombre du martyr qui se pointe sur le chemin de Paul, n'est-ce pas vrai? J'ai combattu le bon combat, dit-il. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais la couronne de justice mais réservé. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront souligné dans votre Bible, qui auront quoi? Aimé son avènement. Avez-vous remarqué? Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Voyez-vous, il y a deux sortes d'amour là. Mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Paul a aimé l'avènement de Jésus et Démas, lui, a aimé les choses du monde. On voit là qu'il n'y avait pas de profondeur dans le ministère. Et qu'est-ce qui s'est passé là? Et pourtant, Démas, j'ai lu, il y a en tout cas 3 versets où il est parlé de Démas. Dans Colossiens, je crois, Paul dit « Salut l'un ou l'autre » et ensuite « Démas, mon compagnon d'œuvre ». Donc voyez-vous, il a bien commencé, c'était son compagnon d'œuvre. Et après, dans Philémon, je crois, Paul dit « Salut l'un et l'autre » et les autres vous saluent, ainsi que Démas. Point, c'est tout. Ça commence déjà à se rétrécir un petit peu. On a l'impression que sa situation devient de plus en plus dangereuse. D'abord mon collaborateur, ensuite mon Démas, c'est tout, il n'y a plus rien du tout. Et puis alors là, dans le 3e verset, Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Dites-moi. Et pourtant, il avait suivi Paul. Il avait vu l'enseignement de Paul, les miracles, tout ce que Paul enseignait. Qui n'aurait pas voulu être avec Paul, n'est-ce pas vrai? J'aurais voulu être avec lui, simplement porter ses valises, ça ne m'aurait pas dérangé. Simplement, ou ses parchemins, ou je ne sais quoi, ça ne m'aurait pas dérangé du tout. Rien que le fait d'être avec l'apôtre Paul, n'est-ce pas un privilège? Il a eu ce privilège. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Eh bien, c'est justement les passages qu'on a lus avant qui nous révèlent pourquoi il a eu peur comme cela. C'est en somme, quand Paul a commencé à parler des difficultés qui l'attendaient et que le martyr était devant lui, la croix était là et Démas a perdu les pédales. Puis il a dit non, c'est bien, je veux bien suivre Paul quand il fait des miracles, mais suivre Paul pour aller sur le chemin du martyr, ça non, non. Moi, je préfère l'amour du monde. Je préfère rester ici. Et voilà une des raisons profondes pourquoi Démas a abandonné Paul par amour pour le siècle présent. Parce qu'il n'était pas prêt à aller jusqu'au bout avec le Seigneur. Avec Paul, il n'était pas prêt. C'était un christianisme ou un évangile sans la croix. Beaucoup aujourd'hui prêchent l'évangile. Que des bénédictions, mais la croix, on n'en veut pas. L'obéissance, la consécration, ça, on n'en veut pas. Des bénédictions, tout le monde est là, on remplit les salles. Pour venir rechercher une bénédiction. On remplit des salles. Mais quand on dit qu'il faut porter sa croix et suivre le maître jusqu'au bout, même s'il fallait donner sa vie, combien reste encore? Très peu. Tu vas trop loin, Paul. Non, je t'aime bien, t'es bien gentil, Paul. Mais au revoir, au revoir, au revoir. On ne sait pas ce qu'il est advenu de Démas. Mais il y avait en lui une grave faille. En tant que serviteur de Dieu, et cela peut se trouver en tant que prédicateur, en tant que chrétien aussi. Sommes-nous prêts à aller seulement quand tout va bien avec le Maître? Mais quand la croix est là, le rejet, la persécution, la tribulation à cause de Jésus, est-ce que vous êtes prêts à aller jusqu'au bout? Êtes-vous prêts à donner même votre vie pour le Seigneur? Êtes-vous prêts? Apocalypse 12:11 nous dit ceci, les chrétiens ont vaincu Satan. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont point aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Voilà pourquoi ils étaient vainqueurs de Satan. Parce que ils avaient livré leur vie à Jésus. Ils étaient déjà morts. Et pour eux, s'ils devaient mourir, c'était la résurrection. Ils n'avaient plus rien à perdre. Ils n'avaient pas peur de mourir parce qu'ils étaient déjà morts. Amen. Tu n'as plus rien à craindre. Quelqu'un ne peut pas craindre la mort quand il est déjà mort et qu'il est ressuscité avec Christ. La mort n'est pour lui à ce moment-là qu'un couronnement Démas m'a abandonné. Voyez-vous la foi superficielle, le monde. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas aller loin avec le Seigneur. Pas de croix. Et un évangile sans croix, écoutez-moi bien, c'est un faux évangile. La Bible, les évangiles, les épîtres ne parlent jamais d'un évangile sans croix. Si nous portons notre croix ici-bas, alors nous porterons une couronne là-haut. Amen. C'est le fameux prédicateur Spurgeon qui a dit ça un jour, dans une de mes lectures, j'ai lu ça. Il a dit, ceux qui porteront une couronne là-haut, ce sont ceux qui ont porté leur croix ici-bas. Il y en a beaucoup qui pensent porter une couronne là-haut, en ayant rejeté leur croix ici-bas. Ne te fais pas d'illusions, toi, rien du tout. Tu n'auras rien du tout. La couronne est pour ceux qui portent leur croix. Et laisse-moi dire une chose, la croix porte toujours ceux qui la portent.
Amen.
Si tu portes ta croix par amour pour le Seigneur te portera, te supportera.
Amen.
Et te permettra d'aller de victoire en victoire, de gloire en gloire.
Amen.
Et les plus grandes difficultés ne t'écraseront pas.
Amen.
Parce que celui qui te porte est celui qui porte le monde entier dans ses mains.
Amen.
Mais si tu refuses ta croix, la plus petite difficulté, la plus petite épreuve t'écrasera. Et tu n'iras pas plus loin. Pas de profondeur. N'est-ce pas le cas de beaucoup de personnes, de chrétiens aujourd'hui et de prédicateurs? Veillons à cela. Amen. Dans Jean chapitre 10, verset 12, il y en a un autre qui n'avait pas une foi, qui avait une foi superficielle aussi. Avec le bon berger, vous savez, il y avait quelqu'un là, comment il s'appelle? Un salarié là, oui, c'est qui? Voilà, Jean 10, 12. Là aussi, on voit les signes d'une foi un peu superficielle. Jean 10, 12. Qu'est-ce qu'on lit? On lit ceci. Verset 7, Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis. Je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira. Et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu avec mes brebis à la vie, qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. Quelle parole extraordinaire! Ici, nous voyons un mercenaire, une foi superficielle, n'est-ce pas vrai? Et quand est-ce qu'elle se manifeste, cette foi? Eh bien, quand le loup arrive, l'épreuve, les difficultés, c'est à ce moment-là qu'on voit l'état, la santé de votre foi, de votre vie spirituelle. Quand tout va bien, le mercenaire, il semblait peut-être un serviteur extraordinaire, n'est-ce pas? Il pourrait être un salarié merveilleux. Mais c'est quand le loup est venu, quand l'épreuve est arrivée, que le test s'est fait concernant sa foi. Et nous aussi, vous aussi, votre foi sera testée, éprouvée, pour savoir quelle est la qualité de votre foi. Quand tout va bien, vous ne pouvez pas savoir quelle est la qualité de votre foi. Vous savez, il y a deux sortes de chrétiens. Il y a les chrétiens, alléluia. Et il y a aussi les chrétiens, amen. Alors malheureusement, on les sépare ces deux. Ça ne devrait jamais être séparé. On devrait être des chrétiens, alléluia. Ce matin, on a loué le Seigneur, tout à l'heure aussi. Alors, on est tous des chrétiens, alléluia. Et il faut l'être surtout pas abandonner ça. Mais s'il n'y a que ça, il manque quelque chose.
C'est ça.
Vous devez aussi être un chrétien.
Ah,
amen. Et le mot amen, on vient de lire. En vérité, c'est amen, c'est ce que Jésus a dit. Amen, ainsi soit-il. Le chrétien amen, c'est celui qui dit oui à la volonté de son Père céleste, quelles que soient les circonstances. Il n'est pas question de reculer dans sa foi personnelle. Il est toujours question de plaire au Seigneur, de faire sa volonté et d'aller jusqu'au bout, coûte que coûte. Amen. Il ne faut pas que les autres vous influencent dans ce domaine-là. Personne ne doit vous pousser à vous égarer dans votre consécration totale au Seigneur. Vous ne pouvez pas faire plaisir aux uns, à l'un et à l'autre, et faire plaisir au Seigneur en même temps. Ce n'est pas possible. Le mercenaire, la lumière se fait sur lui dans l'épreuve, dans l'opposition. C'est là qu'on vous observe et c'est là que le Seigneur vous regarde. Que vas-tu faire? Est-ce que tu vas dire, peu m'importe, je veux te rester fidèle, Seigneur, et aller jusqu'au bout avec toi? Voyez-vous, il y a partout ces mêmes esprits de la croix, de la consécration, de l'obéissance, de la persévérance. Amen. L'Évangile, c'est ça. L'Évangile est glorieux. Mais nous cherchons toujours des nouveautés qui nous empêchent, qui nous éloignent surtout de cette obéissance. On veut être des chrétiens, alléluia, mais pas des chrétiens, amen. Si vous voulez marcher convenablement, il vous faut deux pieds, n'est-ce pas vrai? Deux jambes. Chrétien, alléluia, et chrétien, amen. Est-ce que vous pouvez avancer avec une jambe? Vous n'irez pas loin. Si vous n'êtes que chrétien, alléluia, ou que chrétien, amen, vous n'irez pas bien loin. Vous allez loin avec une seule jambe? Tôt ou tard, vous tomberez, ça n'ira pas. Il faut les deux. Alléluia. Seigneur, tu es merveilleux. Et amen, tu es quand même merveilleux quand tout va contre moi.
Amen.
Tu es toujours merveilleux. Alléluia.
Amen.
Non, bon, Seigneur, tu étais merveilleux, je t'ai loué, mais maintenant, c'est pas merveilleux du tout, Seigneur. Je commence à douter de toi. C'est pas du Seigneur que tu dois douter, c'est de toi-même, de ta foi. Il y a des chrétiens qui doutent du Seigneur, ils se trompent de personne. C'est pas du Seigneur que tu dois douter. Il est le fidèle, il est le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Est-ce que ça ne nous fait pas de bien d'entendre ça? Il est là, rien ne l'arrête.
Rien.
Décidé à faire la volonté de son Père. Et une fois j'avais lu la signification du mot bon, le mot bon, je suis le bon berger, correspond à la pensée, je suis celui qui correspond exactement à tous tes besoins, toutes tes aspirations se trouvent en moi. Je suis le bon berger, autrement dit, tout ce que tu désires de vrai, de réel, eh bien c'est en moi. C'est en moi que tu trouveras ton épanouissement, ta vie pleine de fruits, de bénédictions pour les autres. C'est en moi que tu trouveras cela. Amen.
Amen.
Mais oui, c'est parfois vite dit, n'est-ce pas vrai? Mais parfois on dit amen dans les larmes aussi.
Eh oui.
Dans les larmes. Mais ne l'oublie pas. Sur ce chemin étroit, le Maître sera toujours avec toi. Toujours. Et ce que nous avons remarqué, c'est que sur ce chemin étroit, le bon berger est toujours près de sa brebis.
Mm-hmm.
Ne t'éloigne pas du bon berger surtout, parce que le loup rôde, et ça peut être ta destruction. Mais si tu restes près du bon berger, tu seras toujours gardé. Peu importe les ténèbres, peu importe la solitude, peu importe l'opposition, peu importe que le ciel soit fermé, Jésus sera toujours avec toi. Je suis le bon berger. Je suis celui qui ne te décevra jamais et qui a commencé en toi une œuvre qui l'amènera à la perfection. D'autres se lasseront de toi, mais moi, je ne me lasserai point de toi parce que tu es ma brebis. Le mercenaire s'enfuit parce que ce ne sont pas ses brebis. Mais moi, tu es ma brebis, parce que tu es ma brebis je te conduirai jusqu'au port désiré. Reste bien près de moi et je pourrai faire une œuvre merveilleuse dans ta vie. Mm-hmm. Amen.
Amen.
Alléluia. Je suis le bon berger. Pas d'engagement profond. Pas d'engagement profond. Si tu es au Seigneur, alors ta vie ne t'appartient pas. Elle appartient au Seigneur. Peut-être une quatrième, et je vais m'arrêter là. Pas de conviction profonde. Et on va trouver ça dans Éphésiens 4, 14. Un autre passage où on voit que c'est une foi superficielle. Éphésiens 4, 14 nous révèle cela. Vous avez certainement lu tout cela, mais on peut le lire encore. Éphésiens 4, 14. Et il est dit ici, à partir du verset 13, « Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants. » Soulignez le mot flottant. Est-ce qu'il y a des racines là quand c'est flottant? Il n'y a pas de racines. Tout est superficiel. Des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes et par leur ruse dans les moyens de séduction. Pas de conviction profonde. Ne soyez pas des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine. Pas de conviction profonde. Voilà. Beaucoup de chrétiens n'ont pas de conviction profonde. C'est toujours le dernier qui arrive, qui a raison. Toujours le dernier. Vous arrivez, vous parlez, vous expliquez, et qui dit, oui, c'est formidable, je crois. Un autre arrive après vous, qui dit le contraire. Et la personne croit tout ça. Un autre arrive, dit autre chose, et encore autre chose. Qu'est-ce que vous pouvez faire avec un chrétien comme ça? Et des chrétiens qui attendent toujours quelque chose de nouveau. Qui attendent toujours de nouvelles vagues. Vous savez, il y en a eu beaucoup déjà des vagues, vous êtes d'accord avec moi? Des fausses vagues. Oh, des vagues. Je ne sais pas s'il y en a eu 10. En tout cas, si on en est à la 10e vague, ça commence à divaguer. Ça divague un peu. Si on en est à la 10e, ça divague beaucoup. Et j'ai pris comme note flottant. Le texte grec, le mot grec pour flottant veut dire c'est l'image d'un navire battu par des flots tumultueux. Voilà. C'est l'image d'un navire battu par les flots tumultueux. Voilà. La foi d'un enfant est comme cela. Une fois en haut, une fois en bas. Une fois pour, une fois contre. Vous ne pouvez jamais faire confiance à une personne. Un enfant est caractérisé par l'instabilité. L'instabilité. Et que les chrétiens sont instables. Vous les voyez un jour, ça va bien, le lendemain c'est fini. Terminé, la dépression a commencé. Et ça peut durer un mois, deux mois. Ils sont entrés dans le tunnel, vous ne les voyez plus. Et ils en sortiront peut-être dans 10 ans. Instabilité, c'est le signe d'une foi superficielle, n'est-ce pas vrai? Instable. N'importe qui arrive, on les ballotte. Et ce navire, ballotté par les flots tumultueux, c'est bien ce qu'on voit aujourd'hui, n'est-ce pas vrai? Avec ces cyclones, ces ouragans, ces tempêtes, vous voyez ce que ça fait? Ça détruit tout. Et la foi de ces personnes, de ces enfants, est détruite carrément. Et un enfant, balotté à tout vent de doctrine, il est dit. Un enfant met tout à la bouche. Vous êtes d'accord avec moi? Si vous ne surveillez pas un enfant qui est là, l'enfant met tout à la bouche. Que ce soit des bonnes choses ou des mauvaises choses, l'enfant met tout à la bouche. Et il en est ainsi de beaucoup de chrétiens qui sont des enfants, ils mettent tout à la bouche. Il n'y a aucun discernement. Rien, ils mettent tout à la bouche. Ils veulent goûter à tout. Ils vont partout. n'ont aucun discernement. Un enfant instable. Et un enfant fait toujours ce qu'il veut. Il est obstiné, il fait ce qu'il veut. Et cherche toujours à s'amuser. Vous êtes d'accord avec moi? Un enfant cherche toujours à s'amuser. Et voilà pourquoi certains tombent dans ces nouvelles vagues, qui divaguent et qui font qu'ils ne s'en sortent plus, parce qu'ils veulent s'amuser. Pour beaucoup, le christianisme, et je ne parle pas des gens de l'extérieur, je parle dans nos milieux, pour beaucoup, le christianisme maintenant, c'est s'amuser. C'est du théâtre. C'est des concerts. Il faut amuser les gens, des shows. C'est ça. C'est passer un bon temps. Regardez. C'est ça. Si on passe un bon temps, c'est on résume toute la vie chrétienne en passant un bon temps. Et quand le mauvais temps arrive, oulala, ça c'est plus du Seigneur, on abandonne tout. Alors voyez-vous, on s'attache au mauvais et au bien, on le fuit. On s'attache à un mensonge et à la vérité, on la fuit. Le Seigneur ne nous a pas appelés à vivre avant tout un bon temps, mes amis. Vous êtes d'accord avec moi?
Ah ben non.
Il nous a appelés à le suivre, à l'aimer lui, quel que soit le temps, quelles que soient les circonstances. Notre vie chrétienne, c'est pas vivre un bon temps, c'est rechercher le Seigneur. C'est plaire au Seigneur. C'est pas vivre un bon temps. Ça, c'est une hérésie. Et il y en a des multitudes dans l'église aujourd'hui. Une nouvelle vague arrive et ils sont les premiers à courir, à prendre l'avion même. À prendre l'avion pour aller courir, se rouler par terre. Et faire n'importe quoi. Et ils sont prêts à dépenser des milliers de dollars.
On a vu ça.
Quelle tragédie, vous l'avez vu aussi. Ce sont des enfants qui ne cherchent qu'à s'amuser. Est-ce que ta vie chrétienne se résume à ça? Mon frère, ma soeur, est-ce que ça résume à ça? Passer des bons temps. On aime mieux passer un bon temps. On a passé un bon temps. Aujourd'hui, on a passé un bon temps. Si ça se résume qu'à ça, malheur à nous. Malheur à nous.
Bien sûr.
Malheur à nous. Si c'est que ça, alors on se rassemble pour devenir pire et non pas meilleur.
Oui, c'est ça.
On peut passer un bon temps. Mais ce n'est pas le but. On ne vient pas pour ça. On vient pour rechercher le Seigneur. Obéir au Seigneur. Adorer le Seigneur. Refléter le Seigneur. Et obéir. Changer. Transformer. Être vrai témoin. Quelque chose change. Et non pas passer un bon temps. Et fuir quand on demande quelque chose qui dérange votre petit programme. Non, là je ne peux pas. Là vous m'en demandez trop, monsieur. Ah oui, alors notre... C'est quoi? Quand est-ce que vous allez déranger? Qui va pouvoir vous déranger? Comment on peut vous déranger? Si le Seigneur ne peut pas vous déranger, alors vous êtes sur un triste chemin. Quand c'est le Seigneur qui nous dérange, c'est toujours pour notre bien et pour ton bien. Si tu as été dérangé aujourd'hui, bénis le Seigneur. C'est parce qu'il veut te remettre sur le bon chemin.
Amen, amen.
Ce n'est jamais pour t'abattre et te dire c'est terminé pour toi.
Non.
C'est toujours pour te relever ensuite et te dire, mon enfant, maintenant, change ta façon de vivre. Reviens à moi, prends ta croix, obéis, suis-moi. Glorifie mon nom. Va de l'avant, je serai avec toi.
Amen.
Les signes d'une foi superficielle. On a pris 4 exemples. On va s'arrêter là. Que le Seigneur nous donne d'approfondir notre foi et qu'on ait des racines, n'est-ce pas vrai? Racines profondes, que le soleil ne viendra pas brûler, comme il est dit dans la parabole. J'avais noté aussi ce passage-là. Pas de racines profondes avec la parabole des terrains. Le Seigneur veut qu'on ait des racines profondes. Et il utilise toutes nos épreuves pour approfondir. Et vous serez le plus heureux si vous marchez dans ses voies et cherchez à lui plaire en toutes choses. Que le Seigneur vous bénisse et nous rende en bénédiction. Que son nom soit béni éternellement. Amen.
Amen.
Il est le bon berger. Autrement dit, le berger qu'il vous faut. Qu'il vous faut pour vous exactement celui qu'il vous faut, c'est lui.
C'est vrai.
Suivez pas un mercenaire. Suivez le bon berger. Et il vous conduira dans les verts pâturages. Quand nous marchons dans la vallée de l'ombre et de la mort, nous ne craignons qu'un mal car
Amen, amen.
Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours.
Tous les jours.
Jusqu'à la fin de mes jours. Que Dieu vous bénisse et que nous soyons ainsi et que nous ayons une foi profonde, une affection profonde, un ministère profond, un engagement profond. Bannissons tout ce qui est superficiel.
Amen.
Et enracinons notre foi.
Amen.
Quand la tempête viendra, que nous restions debout.
Amen.
Et que notre vie glorifie le Seigneur.
Amen.
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 Restons dans le recueillement.
Le Seigneur a encore quelques paroles à dire, d'exhortation pour nous. Et il nous dit ceci, il nous dit ce qui est sur son cœur aussi, et qui vient compléter ce qui vient d'être dit, et qui vient préciser une certaine chose que le Seigneur désirerait changer en nous. Ça m'a été donné bien avant ce message. Et le Seigneur dit, peuple de Dieu, de la fin des temps, je voudrais que vous distinguiez davantage les désirs de mon esprit de ceux de votre chair. Votre chair a des désirs qui sont contraires à ceux de mon esprit. Ils sont opposés l'un à l'autre. Mais si vous soumettez votre esprit aux désirs de mon Saint-Esprit, vous ne ferez plus ce que vous voulez, mais vous accomplirez réellement ma volonté et vous découvrirez ce que cela veut dire être conduit par mon esprit et marcher selon l'esprit. Et si vous vivez par l'esprit et que vous marchez selon l'esprit, vous vous éloignerez de toute vaine gloire de ce monde, de toute convoitise. Vous cesserez de vous envier les uns les autres. Et votre seul désir sera de glorifier mon nom au travers de votre vie. Seigneur, aide-nous à marcher selon ton plan, selon tes désirs, Seigneur. Seigneur, que nous puissions dire, non pas ma volonté, Seigneur, dans ma propre vie, mais ta volonté, non pas mes désirs, mais tes désirs, Seigneur. Puissions-nous aimer assez le Seigneur pour lui donner toute notre vie et tout ce que nous sommes et toute notre personne. Réfléchissons à cela. Le Seigneur a juste encore quelques paroles de réconfort cette fois. Pour une personne trahie dernièrement par un membre de sa famille et qui a une douleur dans son cœur. Comme dans la vie de Joseph, toute son ascension vers une influence grandissante a commencé par une profonde blessure dans son cœur. Ainsi en est-il pour toi. La trahison des frères de Joseph et la bonne réaction de ce dernier m'a permis d'accomplir le plan merveilleux que j'avais préparé pour sa vie. Quoique humilié, Joseph n'est pas devenu amer, mais un homme meilleur. Et tout a commencé par une plaie dans son cœur. Je veux que tu progresses toi aussi dans cette situation qui est la tienne. Je veux que tu deviennes fécond dans ce qui est pour toi le pays de l'affliction. Garde-toi de chercher la pitié des hommes. Tu perdrais alors la glorieuse part de mon intervention dans ta vie. recherche auprès de moi et de moi seul la consolation dont tu as besoin. Accepte cette adversité avec patience et tu la verras se transformer graduellement en un sujet de louange et de gloire pour moi. N'est-ce pas ce qui compte le plus pour toi, que mon nom soit glorifié au travers de ta vie? Seigneur, merci parce que tu aides cette personne à accepter et à se laisser modeler par toi. Seigneur, tu viens nous réconforter aussi. Tu viens nous dire des paroles qui nous font du bien aussi, personnellement. Et puis, pour une personne qui vient de vivre une tragédie dans son proche entourage, toi qui as le cœur rempli de souffrance, tourne tes yeux vers moi dans la prière, le matin, à midi et le soir avant de te coucher. Détourne tes yeux de cette tragédie personnelle que tu viens de subir et porte tes regards sur ma compassion et ma fidélité à ton égard durant toutes ces années passées pendant lesquelles je n'ai cessé de te secourir. La prière te permettra de me remettre chacun de tes fardeaux au lieu de t'effondrer sous leur poids. Lorsque tu t'adresses à moi dans la prière, j'entends plus que tes paroles. J'écoute la voix et les cris de ton cœur et je te communique ma paix, cette paix qui sait remettre les choses à leur place, qui sait rassurer et te faire ressentir ma présence à tes côtés. N'hésite donc pas à répandre ton cœur devant moi, dit le Seigneur. C'est le bon berger aussi qui vient rassurer là où il faut rassurer. Oh, bon berger de nos âmes, nous te remercions d'avoir passé au milieu de nous, nous avoir réconfortés, encouragés, enseignés, consolés, guéris. Merci, Seigneur.
Mon cœur t'adore.
Alléluia.
merveilleux.
Oui. Quelqu'un d'autre?
Oui, Seigneur, il m'a guéri. Je descendais en bas, à la porte à gauche. J'ai pu monter les marches.
Le genou a bien fonctionné?
Avec mes deux pattes. D'habitude, j'en mets une avant l'autre.
Ah, ah oui, gloire à Dieu.
Alléluia. Merci, Seigneur.
Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Les pieds, le genou, hein, c'est le genou, ça?
Oui.
Oui, les genoux aussi.
Oui.
Encore quelqu'un? Oui, vous?
Régénérer spirituellement.
Le Seigneur une parole.
Dans les épreuves, il est avec moi.
Dans les épreuves, il est avec toi. Amen, amen.
Amen.
Seigneur. Oui,
d'accord.
Dans les épreuves, le cœur brisé, garde-toi de chercher la pitié des hommes.
Ah oui, amen. Gloire à Dieu, c'est vrai. Amen, amen.
Merci, Seigneur.
Amen. Quelqu'un encore? Oui.
Oui.
Mal dans l'épaule, vous êtes guéri. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Jésus.
Bon, merci.
Alléluia, Seigneur. Merci.
L'an dernier, vous avez prononcé une parole pour quelqu'un qui avait une maladie incurable.
Oui.
C'est ça. Mais sur le coup, j'avais senti quelque chose dans mon dos.
Ah oui.
Et 6 mois plus tard, mais, disons, depuis 6 mois, je n'ai plus aucune douleur.
Plus. Alléluia.
Alléluia.
Alléluia, Seigneur. Alléluia. Oui, Seigneur. Merci, Jésus.
C'est l'occasion de glorifier.
Oui, allez-y.
Faites-le.
Oui.
Moi, je fais pas la guérison pour la thyroïde et les allergies, parce que ma thyroïde se débalance quand même assez fréquemment.
Thyroïde.
Oui.
Alléluia. Oui, c'est cette guérison. Prends-la. Amen. Est-ce que c'est l'eczéma? Non, l'allergie.
Allez-y. Oui, mon frère.
Oui.
Il y a aussi le baume que le Seigneur a placé sur mon cœur par le.
Un baume
sur le cœur. Vous avez dit qu'il y avait comme une dent qui avait percé là, des blessures.
Une blessure du cœur, oui. Comme un abcès qui a éclaté dans le cœur.
Merci, Seigneur. Oui.
Moi, je veux dire, Seigneur, pour l'éducation de ce cœur. La sainte
doctrine,
c'est vraiment
réconfortant. Il est. Gloire à Dieu! Amen! 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 Gloire à Dieu! Quelqu'un? Oui?
Moi aussi, c'est venu confirmer avec dans ces actes, c'est notre frère Samuel a
dit. Oui?
Que ce n'est pas en train de corriger des choses dans ma vie.
Corriger des choses dans ta vie.
Merci.
Par le message.
Si le ciel paraît fermé,
Amen, amen. Merci, Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci, Jésus. Alléluia.
Alléluia. C'est le bon berger.
Merci, Seigneur.
S'il a fait quelque chose, n'ayez pas peur de
le dire. Oui, mais là, pas le jeune homme, oui.
N'ayez pas peur de glorifier le Seigneur.
Oui.
Réellement.
Je pensais que j'avais reçu une parole. J'avais un appel à jeune ce que j'avais dit.
Un appel l'année dernière, oui.
On s'en rappelle.
Oui, on s'en rappelle bien, oui. Il est allé au Pérou en mission. Il est donc parti sur l'appel du Seigneur.
Chaque jour, ça, on se réveillait, on se réveillait juste avec une petite somme de grâce, quoi. Puis tous les jours, des guérisons,
oui.
Des milliards ou des centaines de personnes qui donnent leur vie
à Dieu. Merci, Seigneur.
Je suis venu ici, puis les gens, ils disaient partage à l'église, faites plein d'affaires, prêche, tout ça.
Oui, aujourd'hui, il a été concerné par la parole, jeune homme. C'était toi, donc. Amen. Oui, voilà, laisse-moi te conduire. Je fais juste un pas à la fois avec le Seigneur.
Si Dieu veut que je fasse quelque chose, il va me dire lui-même.
Oui, voilà.
Personne
ne pourrait être
lui parler.
Je crois
qu'il va me parler.
Amen.
Le Seigneur te bénisse. Le Seigneur te bénisse. C'est Max. Prions pour Max.
Le Seigneur te bénisse.
Il a un appel. Alléluia.
Il y a quelqu'un d'autre encore. Gloire au Seigneur.
Oui, gloire à Dieu.
Le Seigneur est merveilleux.
Alléluia.
Que son nom soit toute la
gloire. Oui.
Seigneur, merci de prendre soin.
Merci, Jésus, de
prendre soin de
chacune de tes brebis.
Tu es le bon berger.
Amen, Seigneur.
Et nous voulons maintenant nous remettre à toi et à toi seul.
Amen.
Et ce que tu as commencé en nous, tu l'achèveras. Reste ainsi près de lui.
Mon cœur t'adore.
Et que nous puissions
amen.
Toujours.
Encore une dernière fois, mon cœur t'adore. Après, en terminant.
Voilà.
Mon cœur t'adore.